France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute.
Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute?
Docteur Christophe André.
Tout le monde se plaint de sa mémoire et personne ne se plaint de son jugement. Eh oui, comme le remarquait perfidement La Rochefoucauld, nous sommes le plus souvent toutes et tous persuadés que notre intelligence et notre clairvoyance fonctionnent parfaitement, mais pas notre mémoire. Bon, on parlera aujourd'hui de la mémoire. La fonction de la mémoire, ce n'est pas seulement se souvenir, c'est aussi se construire et se définir. Se souvenir pour se construire? Absolument. Car le vivant, c'est une mémoire qui agit, disait le chercheur Henri Laborite. Le vivant, c'est ce qui, pour changer, évoluer, s'adapter sans cesse, a besoin d'agir, mais besoin aussi de se souvenir pour que nos expériences passées, échecs et succès, éclairent nos actions à venir. Tout apprentissage est basé sur la mémoire et tout développement personnel aussi. Sans le souvenir de notre passé, nous ne pouvons ni enrichir le présent, ni écrire notre avenir. Se souvenir pour se construire, donc, mais aussi se souvenir pour se définir. Car la mémoire est au cœur de notre identité, sous la forme de ce qu'on nomme mémoire autobiographique, qui compile tous les souvenirs des moments de notre vie, grands et petits, vrais ou faux, et les organise en un récit cohérent. Le philosophe Paul Ricoeur parlait ainsi d'identité narrative. Cette histoire de notre vie que nous écrivons nous-mêmes, ce « qui je suis » raconté par moi-même. Pour ma part, je me suis rendu compte que je prenais de l'âge le jour où j'ai compris qu'à force de temps, je n'avais plus seulement des souvenirs, mais aussi un passé, que tout ce que j'avais vécu commençait à s'organiser en une longue histoire personnelle, plus ou moins cohérente.
Quand je me tourne vers mes souvenirs, je revois la maison où j'ai grandi. Il me revient des tas de choses. Je vois des roses dans un jardin, là où vivaient des arbres maintenant. La ville est là. Et la maison, les fleurs que j'aimais tant n'existent plus.
Quelques années avant sa mort, ma mère a développé une maladie d'Alzheimer. Quand je me suis aperçu que son cerveau commençait à s'effilocher, j'ai voulu préserver ce qui lui restait encore de souvenirs. J'avais l'espoir que ça l'aiderait un peu et le souhait de ne pas laisser définitivement s'effacer des pans entiers de son histoire. Je me souviens de ces matinées durant lesquelles, assis ensemble à la table de sa cuisine, mon ordinateur posé sur la toile cirée à fleurs, je lui demandais de me parler de son enfance et de son passé, lui faisant raconter tout un tas d'épisodes de sa vie que j'ignorais complètement. Des choses plutôt tristes, dures, beaucoup de misère dans son enfance, de moments difficiles, sans aucune exhumation, hélas, de souvenirs joyeux. Puis, après quelques séances, nous avons commencé à tourner en rond, comme si nous avions épuisé son stock de souvenirs accessibles. Elle me répétait les mêmes histoires. Sans doute avais-je entrepris ce chantier quelques années trop tard. J'aurais dû m'y lancer bien avant, au moment où je m'étais aperçu qu'elle avait de petits troubles du comportement et du raisonnement. Finalement, tous les détails qu'elle arrivait à me donner de sa propre vie tenaient sur 10 pages. C'est à moi désormais d'écrire la suite avec mes propres souvenirs sur elle. Sûr que ça aurait été mieux de le faire ensemble. Mais la vie est comme ça. En tout cas, si vos parents sont encore là, ne faites pas comme moi. Recueillez leurs souvenirs et écrivez-les avec eux tant qu'ils sont en vie et en forme.
La chronique Chose vue de Christophe André. Caroline Pénaud, pour aller dans le sens de la chronique de Christophe, vous rappelez que les souvenirs donnent l'impression qu'il existe un fil rouge au cours de notre vie, les souvenirs qui définissent notre identité.
Oui, parce que déjà personne n'a les mêmes souvenirs que nous, c'est vraiment quelque chose d'unique. Et c'est vrai que ça permet de faire le lien entre le passé et le futur, de savoir les réussites qu'on a eues dans le passé. Ça nous permet de nous projeter dans le futur. Donc il y a vraiment, il y a eu pas mal d'études sur la nostalgie. Quand on se plonge dans ses souvenirs avec nostalgie, souvent ça favorise ce sentiment d'autocontinuité en fait, entre de liens dans l'existence.
Sylvie Choucron.
Oui, et puis je crois que on l'a dit, mais il faut pas oublier que la mémoire, ça sert aussi à projeter des choses qu'on va faire dans l'avenir. Il y a cette mémoire qu'on appelle la mémoire prospective, et donc la mémoire, ça nous sert à nous souvenir de ce qui est passé, mais ça nous sert aussi à nous souvenir de ce qu'on a prévu de faire. Donc finalement, c'est un lien vraiment indéfectible entre le passé, le présent et le futur.
Francis Eustache, sur le souvenir qui permet de donner du sens à nos vies.
Oui, ça permet de donner du sens à notre vie, à ma vie, mais ça permet aussi de communiquer avec les autres. Ça, c'est très important. Maurice Halbach disait « je ne suis jamais seul ». C'est-à-dire que quand on forme un souvenir, on le forme dans un certain contexte. Ça a déjà été dit. Mais quand on l'évoque aussi dans un certain contexte où l'autre est présent. Et cette dimension collective de la mémoire est aussi très importante. Ce que j'appelle mes souvenirs, ce sont aussi des souvenirs qui sont construits avec les autres. Et c'est ce qui va permettre ce lien social, in fine, qui est aussi une dimension très importante de la mémoire.
Et vous pouvez réécouter, partager en podcast la chronique de Christophe André sur l'appli France Inter.
France Inter.